Et il est tout pile 6h sur Europe 1. 6h-9h, votre matinale info avec Pierre de Villeneuve.
Et à 6h, le journal est présenté par Hélène Zellani. Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une ce matin.
L'homéopathie ne sera bientôt plus remboursée, 30% pour l'instant, 15% au 1er janvier et plus du tout en 2021. Les détails dès le début de ce journal. La loi anti-gaspillage en Conseil des ministres ce matin, stop au plastique et vive le recyclage. Et puis Luc Besson joue un peu son va-tout avec la sortie de son nouveau film Anna. Notre spécialiste Mathieu Charrier nous dira ce qu'il en pense. Traitement efficace pour les uns, poudre de perlimpinpin pour les autres. L'homéopathie déchaîne depuis longtemps les passions, mais cette fois c'est décidé. Les petites granules blanches ne seront plus remboursées par la Sécurité sociale. Ça se fera progressivement à partir du 1er janvier prochain avec un déremboursement total en 2021. Le temps que les industriels s'organisent, la ministre de la Santé Agnès Buzyn explique sa décision ce matin dans le journal Le Parisien, Jean-Philippe Ballas.
Oui, Agnès Buzyn sera donc la ministre du déremboursement. Elle le dit, elle l'assume. C'est une question de cohérence. La ministre ne fait que suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé, autorité qu'elle avait elle-même saisie et qui a rendu ses conclusions. L'homéopathie est aussi efficace qu'un placebo. Alors attention, Agnès Buzyn ne dit pas qu'il faut arrêter de prendre ou de prescrire les petites granules. C'est vrai que des millions de Français défendent l'homéopathie, mais on ne peut pas rembourser des médicaments dont l'efficacité n'est pas prouvée. Et forcément, on se pose la question ce matin, est-ce que c'est tout un secteur qui se retrouve aujourd'hui en danger ? Non, d'après la ministre, qui donne ses chiffres. La somme moyenne remboursée est de 18 euros par an, 25 pour les plus grands consommateurs. En résumé, il y aura toujours des clients et cela ne devrait pas trop mettre en péril les industriels. Alors malgré tout, il faut noter en effet que ce non-remboursement sera progressif. Remboursement intermédiaire à 15% au 1er janvier 2020 contre 30 aujourd'hui, avant l'arrêt total en 2021.
Jean-Philippe Ballas.
Et qu'en pense-t-on chez Boiron, laboratoire spécialisé dans les traitements homéopathiques? La directrice générale Valérie Poinceau sera donc notre invitée tout à l'heure à 7h45.
Et puis autre décision du gouvernement, la route et l'aérien vont devoir mettre la main à la poche pour financer les infrastructures de transport et répondre aux défis climatiques. Concrètement, deux mesures phares. D'abord, une taxe sur les billets d'avion l'an prochain. Les compagnies devront verser entre 1,50 euro et 18 euros pour chaque billet d'un vol décollant depuis la France, excepté la Corse et l'Outre-mer. Par ailleurs, l'avantage fiscal sur le gazole des poids lourds sera réduit de 2 centimes par litre.
La loi anti-gaspillage au menu du Conseil des ministres ce matin.
Oui, il s'agit précisément du projet de loi pour une économie circulaire, qui sera d'ailleurs examiné par le Parlement à la rentrée. Objectif, réduire les déchets et améliorer le recyclage. Direction Strasbourg, où l'entreprise Soprema, spécialiste de l'isolation, vient de créer un procédé unique au monde baptisé Sopraloop. Il permet de recycler les déchets plastiques les plus complexes. Reportage de Charlotte Béchler.
Ce sont des déchets que l'on n'a jamais réussi à recycler. Une barquette d'hachis parmentier, la bouteille de lait. Tous ces plastiques partent directement à l'incinération. 25 000 tonnes de déchets par an qui partent en fumée. Alors, Pierre-Étienne Binchedler, directeur de l'entreprise strasbourgeoise, leur a trouvé une seconde vie. Il les transforme en mousse isolante.
On prend tous les PET opax que vous avez dans les bouteilles de lait ou les barquettes de beurre. Et on les broie mécaniquement, on les lave et après les traiter chimiquement pour redonner de la matière première.
Des tonnes d'emballages qui finissent donc sous les toits des maisons. Et pour Jean Ornin, à la tête d'une entreprise de recyclage, c'est une grande première.
En fait, le recyclage des plastiques présente, lui, plus de complexité que le recyclage du verre, du carton, de l'aluminium ou de l'acier, puisqu'il y a différentes résines et puis parfois des résines mélangées. Donc le système là, qui est proposé par Soprema, justement, permet de recycler des PET un peu complexes et donc nous permet de pouvoir envisager de pouvoir tous les recycler.
Ici, l'entreprise transforme 13% des déchets voués à l'incinérateur et d'ici 5 ans, elle compte tripler le volume. Une ambition à terme, isolée, sans polluer. Strasbourg, Charlotte Béchler, Europe 1.
Et puis notez que dans le cadre de ce projet de loi, un système de bonus-malus sera instauré pour inciter les entreprises à changer leur manière de produire et pour les obliger à utiliser des matières recyclées dans leurs produits. Soulagement pour Bernard Tapie, le tribunal correctionnel de Paris prononce une relaxe générale dans l'affaire de l'arbitrage qui lui avait octroyé plus de 400 millions d'euros. Et puis un décès qui pose question dans le Finistère. Un jeune ostréiculteur de 18 ans est mort brutalement dans la baie de Morlaix. Des associations de défense de l'environnement soupçonnent un lien avec la poussée d'algues verte qui pourrait avoir provoqué une intoxication. L'autopsie du jeune homme doit permettre de trancher.
Europe 1, il est 6h05.
Direction le Parlement européen maintenant, où le Rassemblement national espère bien obtenir des postes à responsabilité.
Oui, étant donné le poids du parti de Marine Le Pen dans le nouvel hémicycle, cela devrait être possible, sauf que les autres familles politiques ne l'entendent pas de cette oreille. Elles veulent faire barrage cet après-midi lors des votes à Bruxelles. Isabelle Horry.
Avec ses 73 élus, la droite nationaliste peut prétendre présider deux commissions importantes au Parlement européen, les affaires juridiques et l'agriculture. Inimaginable pour les autres partis, de l'extrême gauche à la droite classique, ils se sont donc unis pour présenter d'autres candidats et établir une forme de cordon sanitaire autour des alliés de Marine Le Pen. Éric Andrieux est le vice-président du groupe social-démocrate.
Lorsque je vois comment ils ont utilisé l'argent public réservé à travailler avec des assistants parlementaires à des seules fins de l'organisation de leur appareil politique, oui, j'émets des grands doutes sur leur capacité à gérer la destinée de l'Union européenne.
C'est une rupture assumée avec la pratique de répartition des postes entre les familles politiques, ce que dénonce l'élu Rassemblement national Thierry Mariani.
On est dans ce que j'appelle un comportement totalitaire. Si vous pensez certaines choses, y compris si vous êtes à l'extrême gauche, eh bien on peut vous donner des responsabilités. Si vous osez remettre en cause le fonctionnement des institutions, alors là, vous êtes bon à le laisser aux chiens.
Pour la dédiabolisation, c'est raté, mais les nationalistes peuvent aussi pointer qu'ils sont désormais la seule véritable opposition au niveau européen. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe.
Et puis ça chauffe sérieusement entre Donald Trump et l'ambassadeur britannique à Washington. Tout est parti de la publication le week-end dernier de câbles diplomatiques qui auraient dû rester secrets. L'ambassadeur Kim Darroch qualifiait le président américain d'instable et d'incompétent. Réponse de Donald Trump sur Twitter, l'ambassadeur est un imbécile prétentieux. Il s'en prend aussi à Theresa May, accusée d'être incapable de conclure un accord sur le Brexit.
C'est mercredi, c'est la journée des sorties cinéma et notamment à l'affiche le dernier Luc Besson, ça s'appelle Anna.
Oui, le réalisateur joue très gros après la catastrophe de son précédent film Valérian, notamment aux États-Unis. Sa société EuropaCorp va mal, lui est visé par des accusations d'agression sexuelle. Mathieu Charrier, vous avez vu ce film, Anna, vous en avez pensé quoi ?
Disons-le tout de suite, Anna n'est pas le plus grand film de Luc Besson, loin de là. Mais il faut bien reconnaître qu'on y prend quand même un petit plaisir coupable. Certes, l'histoire a déjà été vue 1000 fois, en pleine guerre froide, une très belle espionne russe infiltrée, trahie à tour de bras.
C'est une femme dans une autre femme. Dans une autre femme.
Mais c'est finalement ce que Luc Besson fait de mieux, ses films bourrés de courses-poursuites, de cascades, de fusillades et surtout de rebondissements. Le réalisateur explique qu'il a voulu revenir à l'essentiel.
Je sortais juste en fait de Valérian. Il y avait 3700 plans avec des effets spéciaux. Et là, d'un seul coup, il n'y a pas d'effets spéciaux. Il n'y a que des acteurs. Et vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à retrouver un peu ce goût de la mise en scène et de l'acting et de la direction d'acteur.
Si on se plonge dans la filmographie de Besson, Anna serait une sorte de mélange entre Nikita et Léon. Pourtant, le film déjà sorti aux États-Unis y a essuyé des critiques très négatives, certains journalistes dressant même un fâcheux parallèle entre cette espionne manipulée par des hommes et les accusations qui visent le réalisateur. Aux États-Unis, Anna est déjà un échec commercial. Sa sortie européenne est donc cruciale pour Luc Besson et sa société EuropaCorp.
Mathieu Charrier.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani.